Reprenons notre travail. Je parle aujourd'hui de Mallarmé et d'un sonnet sans titre que vous connaissez sûrement. Ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx, l'angoisse semi-nuit soutient l'ampadophore, main rêve vespérale brûlée par le phénix que ne recueille pas de cinéraire amphore. Sur les crédences, au salon vide, nul ptix, aboli bibelot d'inanité sonore, car le maître est allé puiser des pleurs ou styx avec ce seul objet dont le néant sonore. Mais, proche la croisée au nord, vacante, anore, agonise selon peut-être le décor des licornes ruant du feu contre une nyx, elle, défunte nue en le miroir encore, que dans l'oubli fermé par le cadre se fixe de scintillation sitôt le septuor. C'est un poème connu, étrange, difficile, mais dont la situation de base, pour ainsi dire, est très simple. Dans un salon vide, on imagine la mort de toutes les religions brûlées par une sorte de porte-flambeau et l'absence du maître, c'est-à-dire du poète, qui n'est même pas présent pour écrire le poème que nous sommes en train de lire, et à côté d'un miroir ou en face d'un miroir dont le cadre représente des licornes qui attaquent une nymphe, on voit une fenêtre, par une fenêtre, la constellation de la Grande Ourse. Et je parle, comme vous le savez, de la recherche de l'être dans la poésie française. Il est question plutôt aujourd'hui de la recherche du non-être. Le poème concerne le non-être du moi et du lieu. Mais afin de ne pas chercher aussitôt des idées, une interprétation d'un poème qui est, comme vous le sentez bien, en premier lieu une sorte de musique, je préfère commencer par suivre un aspect de l'acte poétique de Mallarmé, le jeu entre, disons, le matériel et le mental. D'abord, le poème est plein d'objets matériels qui passent de façon assez étrange dans l'esprit. Dès le début, ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx, l'angoisse, ongles et onyx sont des mots parfaitement matériels. Il s'agit d'une petite figurine. On voit l'onyx des ongles, des doigts. Mais ces ongles et leur onyx appartiennent à l'angoisse. Et même si on pense que l'angoisse est une statuette, ce n'est pas ce que dit Mallarmé. Il parle de l'angoisse lampadophore. Et il suggère d'abord l'angoisse en tant qu'émotion, en tant que personnification. Ces choses tout à fait matérielles appartiennent en fait à quelque chose qui n'est pas présent. L'angoisse. Le célèbre bibelot d'inanité sonore n'est pas un bibelot qui fait du bruit. Ce n'est pas par exemple une clochette. Le bibelot est sonore uniquement par son nom, bibelot. Et il n'est même pas, à strictement parler, sonore. Il est d'inanité sonore. C'est l'inanité qui est sonore. C'est une abstraction qui atteint notre oreille. Inanité est entièrement mentale, sonore est entièrement une affaire de sens. Ou, un autre exemple, vers la fin, au vers 9-10, anor agonise. Alors, on suppose que c'est la couleur or sur le cadre du miroir, mais cette couleur or meurt ou lutte, selon les deux sens de agonise, entre dans l'agonie d'un être vivant ou dans l'agone de plusieurs êtres vivants. Autrement dit, il y a une confusion volontaire, et très belle, et tout à fait malarmienne, entre le monde qui touche nos sens et l'activité de l'esprit. Et l'inverse est vrai aussi. Le mental ou l'abstrait devient matériel ou touche les sens. Encore une fois, dans le premier vers, ces purs ongles très haut dédiant, l'oronyx, très haut dédiant permet à dédiant de signifier élevant. L'angoisse élève ce qu'elle élève dans un geste hiératique que l'on ne verrait pas s'il y avait uniquement le mot dédiant et pas l'adverbe très haut. Ou main rêve brûlée. Les rêves sont, disons, abstraits, on ne peut les brûler que par métaphore. Ou le néant sonore. Il est vrai que dans le texte de Mallarmé, c'est le néant se honore, pour ainsi dire. Mais à cause de la rime avec le mot sonore, on entend le néant sonore, le néant qui rend des sons. L'exemple le plus frappant, l'oubli fermé par le cadre, vers 13. Un oubli fermé, quelque chose de tout à fait cérébral, mental, entre néanmoins dans le monde des sens par le fait qu'elle est fermée. Alors il est vrai que l'on passe constamment en poésie, d'un domaine à l'autre, grâce surtout à des figures, comme la métaphore, bien sûr, mais pas comme ici. Un peu chez Nerval, dans l'expression que dont j'ai parlé, il y a quelques semaines, une tour abolie, la tour perd tout à fait sa nature d'objet pour devenir une sorte de tour abstraite. Et d'ailleurs, tour abolie, c'est presque du Mallarmé, mais oubli fermé, c'est tout à fait mallarméen. Et on voit que le travail du poème n'est pas vraiment dans le monde des idées, etc. Le travail du poème, c'est précisément dans le monde des mots et dans ce que les mots font au réel. Le réel change à cause de la façon dont Mallarmé fait une sorte d'interférence ou même de symbiose entre le monde de l'esprit et le monde des sens, disons. Pourquoi ? Peut-être parce que c'est la version mallarméenne de l'acte poétique comme anacthésis, comme la recréation de notre perception du monde. On trouve la même chose dans d'autres poèmes de Mallarmé, par exemple le petit poème Autre éventail, où l'éventail de la fille de Mallarmé devient d'abord une aile, par métaphore, une aile qui bat lorsque sa fille agite son éventail. C'est une métaphore tout à fait compréhensible, presque naturelle. Mais l'éventail étant devenu une aile, l'aile devient un vol. Et entre elle et vol, il y a le passage, bien sûr, du physique au mental. Mais, à la fin, ce vol est ce blanc vol fermé. Quand elle ferme l'éventail, l'éventail devient ce blanc vol fermé. Autrement dit, le vol est à la fois blanc et fermé et entre par ces deux adjectifs qui le précèdent et le suivent, délibérément, évidemment. Mallarmé écrit avec une précision tout à fait remarquable. Je ne suis pas le premier à le dire. Le vol devient, à cause de ces adjectifs, à la fois une abstraction, on ne peut pas toucher un vol, et une chose tangible, une aile. Et cela correspond à l'idée du langage chez Mallarmé. Comme vous le savez sans doute, dans « Crise de vers », qui est un des arts poétiques modernes les plus importants et les plus originaux, auxquels il faut constamment revenir, dans « Crise de vers », il y a le passage célèbre qui commence « Je dis une fleur », où Mallarmé dit non pas que dans un poème, les sons des mots alliés à leur sens font naître une idée même et suave, mais que même dans la conversation au jour le jour, et même en disant le mot pour soi-même, en disant une fleur, on fait quelque chose. En disant une fleur, on crée une idée même et suave. L'idée fleur, l'absente de tout bouquet, on voit le passage de Pascal, de Platon dans la réflexion de Mallarmé, l'idée d'une fleur, l'idée absente de tout bouquet, absente des fleurs réelles que l'on trouve dans des bouquets, etc., mais cette idée est une idée même et suave. Je simplifie, évidemment, mais parce que tout ce qu'il me faut, c'est cette expression où une idée mentale devient suave au sens et en particulier à l'ouïe. Et il y a évidemment un rapport entre un vol blanc et une idée suave. C'est très mallarméen, mais est-ce que cela représente aussi une tendance, je dis bien une tendance de la poésie française ? J'ai dû citer à un moment, je ne me rappelle plus à quel propos, un passage du Chêne et le roseau de La Fontaine, où il, pour décrire des marais, il écrit « Les humides bords des royaumes du vent ». Les marais sont les humides bords des royaumes du vent. Et chez La Fontaine aussi, on est un peu entre le monde cérébral, disons, des royaumes, etc., et le vent tout à fait terre à terre des bords humides. Sauf que, évidemment, dans la langue classique, le mot bord, surtout au pluriel, n'est pas trop tangible. Et dans la poésie française, il me semble que le monde matériel devient très vite intellectuel, mais qu'en même temps, le monde intellectuel est tout ouvert au sens. Et ce n'est pas exactement le cas dans la poésie anglaise. Lorsqu'un poète anglais écrit un peu comme cela, parce que ce n'est pas impossible en français, on le remarque. Marvel, par exemple, Andrew Marvel, poète métaphysique, XVIIe siècle, écrit de temps en temps, un peu, un tout petit peu, comme Mallarmé, et dans The Garden, le jardin, il y a une expression qui est devenue célèbre, a green thought in a green shade, une verte pensée dans l'ombre verte. C'est un poème où il dit qu'on est tellement imprégné par la concentration et par l'attention du lieu où on se trouve que la verdure qui vous entoure produit en vous des pensées vertes. A green thought in a green shade. Mais c'est tellement exceptionnel que, justement, c'est devenu célèbre. J'ai remarqué aussi dans un poète du XVIIIe siècle qui s'appelle John Langhorne, poète tout à fait inconnu, enfin plus ou moins inconnu, un très beau moment, tout à fait mallarméen, étonnamment mallarméen, où il parle de roseaux dans une rivière, de roseaux that waved their green uncertainty of shade, littéralement, qui agitaient l'incertitude verte de leur ombre. Vous voyez qu'il ne s'agit pas d'ombre verte, ce qui est tout à fait normal. Il s'agit de l'incertitude verte des ombres et non pas de l'incertitude des ombres vertes. Dans un poème qui s'appelle The Country Justice, le juge de campagne. Mais c'est rare en anglais. Je suis très content de l'avoir trouvé chez Langhorne, précisément parce que c'est rare et précisément parce que ça montre qu'il y aurait peut-être une façon de faire venir en anglais cette vertu de la poésie française. Et chez Mallarmé, c'est une recherche tout à fait, je souligne le mot, heureuse de l'être du réel tel que nous pouvons l'éprouver, où la conscience humaine et le monde matériel se rencontrent et se mêlent l'un à l'autre. Mais où est le poète dans ce travail sur les deux mondes du corps et de l'esprit? Ben, comme on le sait, il est absent, le salon est vide, le maître, c'est-à-dire le poète, est parti, et le poème est envahi par la mort surtout du poète quotidien. Il y a une cinéraire en fort, au vers 4, il est question du Styx, quelque chose agonise. La Nyx est défunte, le mot que Verlaine va faire sien. Il est question à la fin d'oubli dans le sens le plus profond du mot. Et c'est curieux parce que on a noté l'expérience de la mort successivement dans El Desdichado de Nerval et Spleen de Baudelaire, et maintenant on le retrouve dans ce poème de Mallarmé. Et croyez-moi, je n'avais pas choisi ces trois poèmes à cet effet. C'est, j'allais dire, par coïncidence, ce n'est pas une coïncidence, évidemment, c'est parce que à un certain moment dans la poésie française du XIXe siècle, l'idée de la mort, et surtout de la mort métaphorique du poète, s'impose et devient stimule très profondément une réflexion sur ce que c'est que d'être poète et que d'écrire. Et chez Mallarmé, qui est différent, évidemment, à la fois de Nerval et de Baudelaire, il ne faut pas les confondre, chez Mallarmé, il y a deux raisons à cela. Je vous les rappelle parce qu'elles sont parfaitement bien connues. Encore une fois, dans Crise de verre, Mallarmé parle de l'œuvre pure qui implique la disparition élocutoire du poète qui cède l'initiative aux mots, expression combien célèbre. Il s'allume de reflets réciproques, remplaçant la respiration perceptible de l'ancien souffle lyrique ou la direction personnelle enthousiaste de la phrase. L'expression disparition élocutoire du poète signifie évidemment que pour Mallarmé, il faut se défaire de la notion que le poème est en quelque sorte le souffle du poète Stéphane Mallarmé, et qu'il faut le remplacer par l'idée que c'est le poème qui parle ou le langage qui parle et non pas l'écrivain. La deuxième raison, c'est évidemment la perte du moi. Dans une lettre à Casalis du 28 avril 1866, Mallarmé écrit, encore une fois, dans une phrase devenue célèbre, devenue célèbre parmi les gens qui connaissent cette phrase-là, parmi les Mallarméens, disons, et les gens qui s'intéressent à Mallarmé, « Nous ne sommes que de vaines formes de la matière, tirées, mais bien sublimes, pour avoir inventé Dieu et notre âme. » Et on dirait que, pour Mallarmé, cette perte du moi est donc une bonne chose. Nous ne sommes que de vaines formes de la matière. Cette perte du moi permet de devenir impersonnel, de perdre le mensonge d'un moi individuel, indépendant du tout. Mais il me semble aussi que cette perte du moi dans ce poème est aussi une angoisse. Derrière le travail souverain et heureux du poète, on peut sentir une angoisse merveilleusement bien contenue. C'est une poésie, évidemment, à la recherche du non-être du moi, mais aussi à la recherche du non-être du monde et du lieu. On sait que le poème mime la destruction des religions, de toutes les religions, et la disparition de toute transcendance. Nous ne sommes que de vaines formes de la matière, dit Mallarmé. Le phénix, qui est en quelque sorte le soleil, a brûlé les rêves religieux au début du poème, comme il a brûlé les rêves des poètes à la recherche d'un monde lumineux. Je dis bien lumineux, avec un N. Et on voit au début et à travers tout le poème la mort de toutes les religions. La religion égyptienne dans le phénix, par exemple. La religion grecque dans le styx. Et tous les mots d'origine grecque. Onyx, lampadophore, ptyx, agonise. La religion germanique disparaît dans la Nyx. Nyx qui vient de Nerval, entre parenthèses. J'aime beaucoup la façon dont les poètes puisent les uns chez les autres. La perte aussi de la religion chrétienne, dédiant au début, signifie en quelque sorte l'élévation de la messe. Les crédences sont à la fois des croyances et les consoles où l'on pose les ustensiles de la messe. Les ustensiles de la messe. Et même le mot vespéral, il est employé comme adjectif, comme substantif, un vespéral, c'est un livre des prières du soir. Donc toutes les religions sont détruites à travers le poème, et cette mort de la transcendance et l'affaire de l'angoisse, c'est l'angoisse qui brûle la transcendance. Très important, en fait. Mallarmé ne dit pas « Enfin, nous nous sommes débarrassés de toutes ces vieilleries ». Il dit « Nous en sommes débarrassés, il fallait bien, mais quelle angoisse cela crée ». Et dans la même lettre à Casalis, il dit « J'ai rencontré le néant ». Et il appelle cela une pensée écrasante, une pensée écrasante. Le travail poétique consiste donc ici, dans ce poème, ce n'est pas le seul poème de Mallarmé, à déréaliser le réel. Au vers 4, les rêves que ne recueille pas de cinéraire en fort. Ou au vers 5, vide, nul. Au vers 6, aboli et inanité. Inanité signifie à l'origine vide. Au vers 8, néant. Au vers 9, vacuité. Au vers 13, oubli. Et surtout, me semble-t-il, au vers 10, le mot peut-être. On peut glisser là-dessus, mais le mot peut-être est étonnant. Il est déjà étonnant comme une simple hésitation. Pourquoi y aurait-il un doute à propos de ce que représente le cadre du miroir? C'est peut-être des licornes ruant du feu contre une nyx. Mais Le mot retrouve surtout le sens profond de « peut-être ». « Peut-être » était à l'origine « puetzel estre » en ancien français. « Cela peut être ». Et comme le néant, c'est une façon de nier l'être. « Cela peut être, donc cela peut aussi ne pas être ». Et peut-être est une sorte de trou dans le réel et dans le poème, aussi efficace que Ptix, que je n'ai pas oublié et auquel je vais arriver. C'est un peu comme dans Spleen de Baudelaire, le Spleen qui est le numéro 76 que nous avons regardé la semaine dernière, sauf que si Baudelaire déréalise le monde, et c'est le cas. Dans le poème, il n'y a ni gros meubles, ni cimetière, ni sphinx, et ainsi de suite. S'il déréalise le réel, le monde, c'est afin de montrer l'effet de l'ennui. L'ennui, c'est ce qui fait, pour le sujet, que le monde n'existe plus. Mallarmé déréalise le monde afin de montrer le néant. Tout à fait différent de Mallarmé, en fait. Les poètes apprennent les uns chez les autres, mais ils sont, s'il s'agit de grands poètes, ils sont entièrement eux-mêmes. Et Mallarmé déréalise le monde afin de montrer le néant, la perte précisément de ce que Baudelaire reconnaît encore et qu'il appelle l'idéal. Et c'est une descente donc aux enfers, vers le Styx, qui semble intouché par le mal de Baudelaire. Lorsqu'on lit ses purs ongles très hauts, etc., on n'a absolument pas le sens d'un poème empli de fortes émotions, comme dans Baudelaire. Mais c'est un poème où l'on retrouve néanmoins non seulement angoisse, mais aussi pleurs, au pluriel, et agonise. C'est un poème sur le non-être du lieu, où dans un salon, il y a des crédences, mais sans rien dessus. Il y a une croisée, mais elle est vacante. Il y a un cadre, mais il est plein d'oubli. Et curieusement, on pourrait le dire dans l'autre sens. On pourrait dire que c'est un poème sur le quotidien. Un salon qui pourrait très bien être le salon de Mallarmé, un salon en Avignon, où il a écrit la première version du poème, ou à Paris, lorsqu'il a fait la version définitive, commence à ressembler, curieusement, à la chambre de l'étudiant dans Le Corbeau de Poe, encore Poe. Et le salon est comme envahi par le crépuscule des dieux, par l'angoisse, par une descente aux enfers, par des licornes et une nyx, par la vision d'une beauté lointaine, la grande ours que l'on voit par la fenêtre. Autrement dit, quelque chose de tout à fait quotidien, ce qui environne, entoure littéralement le poète, s'ouvre à des idées extrêmement grandes. Mais en même temps, puisque j'ai parlé du quotidien, on voit la différence avec un poème anglais où le quotidien s'ouvrirait à l'immense. Il n'y a dans la poésie anglaise aucun poème qui ressemble à ces purs ongles très hauts d'Eddie en Renix. Autrement dit, le salon vide est étrangement plein. Et dans une autre lettre au même Henri Casalis, du 18 juillet 1868, Mallarmé, pensant que le sonnet allait être accompagné d'une gravure, dit que le sonnet me semble se prêter à une eau forte, pleine de rêves et de vide. une phrase typiquement mallarmienne et très spirituelle finalement, un peu Marvel, une eau forte pleine de vide. Et au-delà, ou peut-être en deçà, du non-être du moi et du lieu, il s'agit du non-être et aussi de l'être, du langage. Pourquoi un sonnet ? Le fait que le poème est un sonnet est signalé dans l'édition des poésies par le fait qu'il est dans une petite section dont le titre est « Plusieurs sonnets ». C'est une forme très stricte, évidemment, une forme qui souligne la différence du langage poétique par rapport au langage quotidien. Et c'est une forme brève qui permet aux mots de réagir les uns sur les autres, exactement comme Mallarmé dit qu'il veut qu'il le fasse. Mais pourquoi un sonnet français ? Évidemment, la question ne se posait pas pour Mallarmé. Il n'avait pas à choisir entre un sonnet français et un sonnet anglais. L'idée, je suppose, ne l'a même pas effleurée. Mais on peut se poser la question et noter que la forme du sonnet français, qui est aussi la forme du sonnet italien, espagnol, etc., la forme du sonnet français, où il y a ce que j'appelle octave et sesté, huit vers qui se répondent et six vers qui se répondent, cette forme articule parfaitement l'argument du poème. L'argument du poème qui peut se réduire à ceci, le néant, mais la beauté. C'est en quelque sorte la forme musicale du sonnet. Le néant, mais la beauté. Et on remarque qu'il y a une phrase pour chaque partie du poème. Il y a une première phrase pour les deux quatuors et une deuxième phrase pour les deux tercets. Et surtout que le mot « mais » sert de charnière. Et pourquoi est-ce qu'il y a « il n'y a que » deux rimes sous les formes masculines et féminines, « x » et « or », avec ou sans un nœud muet. Alors, comme on sait, les sept paires de rimes d'un sonnet deviennent, à la fin du poème, le septuor, deviennent un des sens du septuor. Et ce qui reste après la dispersion des rêves, après la disparition de la transcendance, c'est la beauté de l'art, de la poésie, de la musique, qui se concentre dans le dernier mot du poème, qui est septuor. Le dernier mot, depuis la révision, encore une fois, c'est un poème que Mallarmé a trouvé en le travaillant après coup. Et notons qu'un septuor est une forme musicale, non seulement pour un instrument, mais quelquefois aussi pour des voix. Et la disparition élocutoire du poète permet la présence de cette voix impersonnelle. Le poème devient musique, mais pourquoi X et or ? Je pense que la réponse se trouve encore une fois dans Crise de vers. Dans Crise de vers, Mallarmé dit qu'il est étrange et à première vue énervant, ennuyeux, que le mot nuit, qui devrait être très obscur et plein d'ombre, le mot nuit a un timbre clair, alors que le mot jour a un timbre obscur. Et peut-être qu'il a raison. Nuit, jour. Nuit devrait signifier jour et jour devrait signifier nuit. Il dit que c'est étrange, mais heureusement que c'est comme cela, parce que sinon, il n'y aurait pas le vers. Le vers travaille la langue pour que, en parlant de la nuit, on tombe dans les choses sombres et en parlant du jour, on est dans les choses, des choses claires. Et il me semble que dans ces purs ongles, le son I, qui a un timbre clair, est aigu, alors que le son OR, ce n'est pas le son our, bien sûr, mais le son or est relativement grave. D'où les rimes alternées et non pas embrassées. Vous savez que dans le sonnet dit régulier en France, il faut des rimes embrassées, A, P, P, A, A, B, B, A, alors qu'ici, il y a A, B, A, B, A, B, A, B. Il est vrai qu'à l'époque de la première version du sonnet, 1868, Mallarmé écrivait des sonnets dits irréguliers. Néanmoins, il me semble qu'ici, il saisit l'occasion d'alterner les aigus et les graves. Et dans la version définitive, c'est encore plus clair. Vous pouvez regarder la version primitive, originale, dans, par exemple, l'édition de la Pléiade. Et vous verrez que dans la version définitive, on alterne encore davantage et que le seul moment où il n'y a pas alternation entre l'aigu et le grave, c'est au vers 9-10. Et Mallarmé s'arrange pour utiliser « i » et « or » ailleurs qu'à la rime. Alors, naturellement, il y a d'autres mots avec un « i » ou avec un « or », mais quand on regarde le nombre de fois qu'il y a un mot avec un « i », on commence à comprendre que c'est pour la poésie du poème que ces mots existent. « Minuit ». Cinéraire, vide, aboli, bibelot, d'inanité, puisé. Et dans les tercets, agonise, licorne, oubli, scintillation, sitôt. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres or. Il y a nord et licorne. Mais licorne arrive dans la séquence le décor de licorne, évidemment pour que l'on entende cette petite musique. Il y a d'autres sons que Mallarmé travaille, la diérèse, scintillation, il faut le lire plus ou moins comme cela pour avoir le nombre de syllabes, non pas pour avoir le nombre de syllabes, pour avoir le rythme que Mallarmé veut, comme chez Baudelaire, morne, incuriosité. Et comme chez Baudelaire, il y a une raison. La raison chez Baudelaire est autre. La raison chez Mallarmé, me semble, c'est d'abord que le mot scintillation semble scintiller, et surtout que, et je ne sais pas si on l'a remarqué, le septuor, c'est aussi les mots scintillation sitôt. Si on lit le dernier vers en pensant aux syllabes que l'on lit, on lit de scintillation sitôt le septuor, du septuor qui est constitué par scintillation sitôt, cette syllabe. Il y a un travail sur les consonnes. Vous savez que le français est surtout une langue vocalique. Il y a plus de sons vocaliques dans le français que dans l'anglais. C'est une langue qui s'est défaite progressivement de beaucoup de consonnes qui ont été remplacées par un accent, comme vous le savez. Escrire devient écrire. Il y a beaucoup de consonnes qui sont maintenant passées sous silence. Plomb, par exemple, où est passé le B. Les pluriels en S, on ne dit plus roses, mais roses. Certaines consonnes sont amuies. Le R autrefois a été roulé, on ne roule plus le R français. Quelquefois même, il y a une sorte d'air grasseillé, comme dans l'accent des Parisiens. Alors que Chrétien de Troyes devait prononcer son nom quelque chose comme Christians. On voit qu'il y a une autre sonorité au français. Ancien, moyen, même jusqu'au XVIIe siècle peut-être, que dans le français moderne. Alors que Mallarmé s'arrange pour écrire un poème très consonantique. Au deuxième vers, l'angoisse se nous fait prendre conscience de ces sons. Ou exactement au même endroit, du vers 3, rêve vesperal. Alors, le fait de choisir une des rimes en X, parce que X est non seulement une consonne, c'est une double consonne, on fait que ce. Le mot septuor est extrêmement bien choisi, parce que c'est un mot qui retrouve le P devenu muet dans le mot sept. Et septuor retrouve ptix. C'est vraiment un travail de... C'est le travail d'un musicien français de la fin du 19e siècle. Hein. C'est exactement Debussy. Hein. C'est septix, septuor, etc. Et on sait que le P suivi de T arrive assez souvent dans les mots français, mais P, T au début d'un vers, d'un mot est toujours un peu étrange et même littéralement étranger, parce qu'un mot qui commence P, T vient forcément du grec. Donc, il y a une sorte d'étrangeté ou même d'étrangèreté dans ce langage consonantique. Pourquoi consonantique? Mais précisément, me semble-t-il, pour tout se centrer sur ptix et pour faire étrange. Il y a d'autres manières de rendre la langue étrange. Les étymologies, par exemple, qu'on a bien remarqué, selon le décor, signifie selon une des étymologies possibles du mot selon, le long du décor, selon le décor, le long du décor. Ongle et une onyx dans le premier vers, c'est le même mot. Onyx signifie ongle. Lampadophore, qui signifie porte-lampe, est un mot en quelque sorte ni grec ni français, ou c'est un mot entre le français et le grec, ou c'est un mot qui annonce le début d'une nouvelle langue. Il y a même des adjectifs antéposés de façon assez voyante. Cinéraire en fort, par exemple, tout à fait impossible pour ainsi dire. Aboli bibelo, au lieu de bibelo aboli. Il avait raison, évidemment, c'est merveilleux de le faire comme ça. C'est quelque chose que même Nerval n'avait pas fait. Il a parlé d'une tour abolie, non pas d'une abolitour. Abolitour serait fait exactement Mallarmé. Et ces adjectifs antéposés sont là pour une raison. Ce n'est pas simplement pour l'oreille de Mallarmé ou pour que les gens en parlent. Baudelaire a ses raisons de le faire, parce que lui aussi le fait, nous l'avons regardé. Il parle des neigeuses années, par exemple, ou d'une morne incuriosité, précisément parce que l'effet de l'ennui, selon ce poème, est de nous enfermer dans nos impressions. L'impression des neigeuses X et d'une morne X. Alors que pour Mallarmé, je pense que c'est, encore une fois, pour que la langue devienne étrange, pour que le français devient presque une langue étrangère. Même le jeu de mots existe pour la même raison. Je l'ai déjà noté, sonore, le néant sonore. Et ne pensons pas que ce soit rare chez Mallarmé. Vous savez qu'en général, dans la poésie française, on a tendance à éviter les jeux de mots dans la poésie dite sérieuse, en pensant qu'on peut le faire dans la poésie anglaise, mais on laisse ça pour les Anglais. Le calembour étant la fiente de l'esprit, comme dit Hugo. Mais dans prose pour des esseintes, on trouve des rimes tout à fait exagérées. Cinq ou six fois, il y a des rimes qui font grincer les dents et qui sont réjouissantes aussi. Par exemple, il rime désir, virgule, idée, désir, idée, avec désir, idée. Il rime son jeu monotone, ment, avec mon jeune étonnement. on est déjà dans Raymond Queneau. Et ayant dit cela, je me demande si le poème ne contient pas un soupçon d'autodérision. A-t-on le droit de parler ainsi d'un poème de Mallarmé ? À propos de la première version, dans la deuxième lettre à Casalis que j'ai citée, il lui dit, c'est peut-être il se peut que le poème n'ait pas de sens, ça ne m'ennuie pas du tout. Si c'était le cas, ça ne m'ennuierait pas, même ça me plairait, à cause de la dose de poésie qu'il contient. En se laissant aller à le murmurer plusieurs fois, on éprouve une sensation assez kabbalistique. Il y a quand même une sorte d'humour là-dedans, me semble-t-il. Et il est vrai que j'ai trouvé une sorte d'humour à l'encontre de soi-même chez Nerval et chez Baudelaire, et que le regard amusé que l'on retourne contre soi-même est souvent présent dans la poésie anglaise. Et après tout, puisque je suis anglais, peut-être que je suis sensible à ce genre d'effet. Mais, Mallarmé m'aide ici. Mallarmé m'aide, c'est presque une expression à la Mallarmé. Il a traduit en anglais, mot à mot, comme il le dit, son poème « Tombeau des Garpeaux », pour la simple raison qu'il l'a écrit pour un mémorial aux États-Unis. Il envoie le poème avec une traduction mot à mot à une dame. Et à un moment, on trouve dans la traduction « They thought the spell drunk in the ominous flood of some dark mixture. » Et il cite la première version du poème, légèrement différent et moins bon que la version définitive. Il cite ceci: « Tous pensèrent entre eux le sortilège bu chez le flot sans honneur de quelque noir mélange. » Et il explique cette partie de sa traduction, explique l'anglais en disant, il écrit en anglais bien sûr, means in plain prose charged him with always being drunk, signifie en une prose simple, ils l'accusèrent d'être toujours ivre. Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser que Mallarmé voyait qu'il écrivait un peu, pour employer encore cette expression anglaise qui me plaît beaucoup, over the top. Et je trouve la même chose chez La Fontaine. La Fontaine, je ne pense pas l'avoir cité au collège. Je sais que je l'ai cité dans un essai sur La Fontaine, au présent. Mais dans Le Cierge, qui est livre 9, fable 12, il dit ceci à propos d'abeilles. Quand on eut des palais de ces filles du ciel, enlever l'ambroisie en leurs chambres encloses, ou pour dire en français la chose, après que les ruches sans miel n'eurent plus que la cire, voyez. C'est un peu comme si Mallarmé disait de quelque noir breuvage, ou pour dire en anglais la chose, etc. Ou dans Les deux chèvres, livre 12, vers 4, à propos de deux chèvres qui refusent de céder sur un pont trop étroit pour deux, il écrit « Faute de reculer, leur chute fut commune. Toutes deux tombèrent dans l'eau. » Vous voyez, il le dit en poésie et ensuite, en quelque sorte, en prose. Alors, comme La Fontaine, Mallarmé sait l'importance de la périphrase. Il faudrait une heure sur pourquoi La Fontaine écrit comme ça. Mais Mallarmé sait l'importance de la périphrase qui revoit le monde en refaisant le langage. Et comme lui, il semble conscient aussi à la fois du sérieux et du comique d'une tentative pour aller légèrement trop loin. Car le travail sur le langage, chez lui, est évidemment tout à fait sérieux. Ptyx est un mot grec avec plusieurs sens, dont aucun ne soit vraiment approprié au poème, et il est clair que Mallarmé l'utilise comme un mot sans signification, pour que, dans ce mot, le langage décolle du monde. Le ptyx ne signifie rien, et de toute façon, il n'y a pas de ptyx, parce qu'il dit il n'y a nul ptyx, non seulement c'est un objet qui n'existe pas, mais il n'est même pas là. Et les mots se réfléchissent comme dans un miroir, et l'exemple parfait étant ce moment du vers 5, où on lit « vide, de point, nul ».« Vide, de point, nul ». Il écrit un poème un peu comme une partition de musique. Il faut noter les deux points. Le poème est le miroir dont il parle. Le poème est l'oubli fermé par son cadre, le cadre du poème étant les 14 vers et la structure des rimes. Et par ce travail linguistique, poétique, le poème se crée comme une œuvre d'art, comme la beauté qui demeure malgré le néant. D'où la sculpture, l'angoisse, le cadre du miroir, la céramique, l'amphore, la musique, le septuor, et la poésie, le maître, et peut-être même Orphée, la descente aux enfers. C'est la recherche d'une langue rare et d'une langue autre, ou même proche, la croisée n'est pas du français moderne, proche comme préposition et vieux ou régional. Dont il faut penser quoi? Peut-être que Mallarmé a remplacé le poète Narcisse par le langage narcissique, que la perte d'une sorte de foi dans la possibilité de l'être du monde et du moi conduit à une même perte de foi quant au langage. Après tout, même un poème parfaitement œuvré et empli à sa façon de beauté n'est finalement pour Mallarmé qu'un aboli bibelot d'inanité sonore. Et on peut penser que c'est, si on veut s'éloigner de Mallarmé, que c'est la faute d'une langue immaculée. Dans un article publié, il est vrai, en 1862, quand il n'avait que 20 ans, un article qui s'appelle « Hérésie artistique », Mallarmé dit qu'il faut inventer une langue immaculée afin d'exclure les profanes. Et curieusement, il y a une différence entre une langue immaculée et ce que Baudelaire dit dans la dédicace des fleurs du mal à Gautier, qu'il appelle le poète impeccable. Il y a une différence entre immaculé et impeccable. Dans impeccable, on a l'idée du péché, ou du mal, disons. Une langue impeccable est une langue qui reconnaît tout ce qui ne va pas dans la vie et dans le moi, et qui essaie, du point de vue de la poésie, de dominer sur le mal. Alors qu'une langue immaculée est simplement une langue pure, qui tourne le dos à tous ces problèmes-là. Pourtant, on sait que Mallarmé ne cesse d'exercer une immense fascination, en partie en Angleterre et dans les pays anglophones. Je trouve ça curieux et très significatif. Yeats s'intéressait beaucoup à Mallarmé qu'il a rencontré. Wallace Stevens, le poète américain, aussi. Eliot, aussi, qui trouvait dans la poésie de Mallarmé beaucoup d'émotions. Intéressant. Les poètes tout à fait récents aussi, Donald Davey, que j'ai mentionné l'année dernière dans un cours, a traduit prose pour des esseintes. Davey, qui était particulièrement anglais, de toutes sortes de manières, a traduit néanmoins un poème abstrus autant qu'abscon. Charles Tomlinson, dont j'ai parlé l'année dernière, a traduit ses purs ongles très hauts, dédiant l'Oronyx. Moi-même, si je peux parler de moi, je me rends compte que je parle de Mallarmé dans tous mes livres et que je ne cesse de réfléchir à lui, malgré le fait que, de bien des points de vue, je suis très loin de ses préoccupations. Et j'aimerais penser que c'est parce qu'au cœur de l'œuvre de Mallarmé, il y a ce que Baudelaire appellerait deux postulations. La postulation représentée par l'après-midi d'un faune, qui contient des passages comme « pourpre est déjà mûr, chaque grenade éclate et d'abeilles murmure ». Passage qui, pour un anglais, rappelle Keats, et on remarque qu'il ne s'agit pas de la grenade, mais de chaque grenade. Ce n'est pas du tout la rose de Ronsard. Et l'autre postulation représentée par Hérodiade. Et il se peut, pour terminer rapidement parce que le temps file, il se peut qu'au cœur de l'œuvre de Mallarmé, il y ait une vieille opposition. Je ne dis pas que Mallarmé fait comme tout le monde, je dis qu'il y a une version mallarméenne tout à fait originale, tout à fait merveilleuse et moderne d'une vieille opposition entre l'amour de la vie et la renonciation à la vie, entre l'amour des sens et l'amour de l'esprit, ou, comme chez Yeats, entre l'amour du monde, de la nature et de l'engendrement et l'aspiration à Byzance, entre, disons, Saint François d'Assise et Saint Jean de la Croix. On peut le dire de beaucoup de manières différentes parce qu'à chaque fois, ça change. Entre l'été et l'hiver, ou, pour aller au cœur de la littérature et pour citer le maître des maîtres, entre « to be » et « not to be ». Bon, la semaine prochaine, comme vous le savez, pour la deuxième heure, nous aurons l'honneur d'accueillir M. François Cheng. Je vous remercie.